Chapitre 11e. Le songe d'amour de Rosie. Les après-midi de dimanche étaient maintenant pour Rosie des heures de solitude. Elle ne pouvait retourner au bourg et assister aux vêpres que si le valet gardait la maison. Et une fois par quinzaine, il avait stipulé qu'il pourrait se rendre à Saint-Jean-de-Mont, chez sa sœur Finette, qui était sourde et muette. Mathurin, qui restait autrefois à la Fromentière tous les jours de sa triste vie, ne manquait plus la grand-messe de Salertaine, rencontrait Félicité Gauvry, la saluait sans lui parler le plus souvent, pour ne pas déplaire au métayer, la regardait passer sur la place et, sitôt après, s'attablait dans les auberges avec les joueurs de luette. Quant à André, il semblait à présent ne plus tenir à cette maison de la Fromentière, et le dimanche, dès qu'il le pouvait, il s'échappait, pour courir les villages, près de la mer, recherchant de préférence les anciens marins et les voyageurs qui parlaient des pays où l'on fait fortune. Rosie ignorait ce qui attirait ainsi son frère au loin. Une fois, elle s'était plainte à lui, gentiment, qu'on la laissât toute seule. Il s'était mis à rire, d'abord, puis, le rire était tombé, rapidement, et André avait dit « Ne te plains pas si je te laisse seule, Rosie. Tu profiteras peut-être un jour de mes promenades. Je travaille pour toi. » Le quatrième dimanche de janvier, la Fromentière était donc gardée par Rosie. Mais Rosie ne s'ennuyait pas. Elle s'était abritée derrière la ferme, dans l'air à battre, au pied du grand paillet, le visage tourné vers le marais qu'on apercevait entre deux buissons de la haie. Le vent du nord l'aurait glacée, mais la paille autour d'elle conservait la chaleur comme un nid. Rosie avait la tête enfoncée, les coudes rentrés dans l'épaisseur molle des dernières fourchées qu'on avait tirées du tas, mais qu'on n'avait pas encore enlevées. Elle pouvait voir, tant l'air était limpide, le clocher du Perrier, les fermes les plus éloignées et jusqu'aux bandes rougeâtres, qu'on ne découvre que rarement, et qui sont les dunes boisées de pins dont la mer est bordée à plus de 3 lieues. Elle regardait de ce côté-là, mais son esprit allait plus loin que le pré du Père, plus loin que le Grand Marais, plus loin que l'horizon, car Jean Esmy avait écrit. Rosie avait dans sa poche la lettre qu'elle touchait du bout de ses doigts. Depuis le matin, elle savait par cœur et se récitait à elle-même la lettre de Jean Esmy. Le sourire ne quittait pas ses lèvres, si ce n'est pour monter à ses yeux. L'inquiétude était refoulée, oubliée. On l'aimait toujours, la petite Rosie. La lettre en faisait foi. Elle disait « Le château, paroisse des Châteliers, 25 janvier. Ma chère amie, nous sommes tous en bonne santé et c'est de même chez vous, je l'espère, quoique l'on ne soit jamais sûr quand on est si loin. Je me suis loué dans une métairie qui est sur un dos de colline en sortant de la lande Nousiac dont je vous ai parlé. On a bien six clochers autour de soi quand il fait beau, et je pense que, n'était la montagne de Saint-Michel, on apercevrait les arbres du marais où vous êtes. Malgré ça, moi, je vous vois toujours devant mes yeux. Le samedi, d'ordinaire, je reviens chez la mère Nesmy, ainsi que mon frère, le plus grand après moi, qui s'est loué aussi chez des métayers de la Flosselière. Nous causons de vous, chez la mère, et je dis souvent que je ne suis pas si heureux que je l'étais avant de vous connaître, ou que je le serais. Si tout le monde à la maison vous connaissait. Ils savent votre nom, par exemple. Les plus petits et ma sœur Noémie, quand ils viennent le samedi soir à ma redevance dans les chemins, crient pour me faire rire. « As-tu des nouvelles de Rosie ?» Mais la maman Nesmy ne va pas croire que vous ayez de l'amitié pour moi, parce que nous sommes trop pauvres. Si seulement elle vous voyait, elle comprendrait que c'est pour la vie. Et je passe mon temps de dimanche à lui conter comment c'était à la Fromentière. Rosie, voilà 4 mois que je ne vous ai vu, selon ce que vous m'aviez commandé. J'ai su seulement, à la foire de Pouzauges, par un du marais qui venait acheter du bois, que votre frère André était rentré au pays et qu'il travaille comme le métayer de la Fromentière aime qu'on travaille chez lui. Aussi, je ne serai pas longtemps sans retourner vous voir. J'arriverai un soir, quand les hommes seront encore dehors, et que vous penserez peut-être à moi, en faisant cuire la soupe dans la grande salle. Je m'approcherai du côté de l'air, et quand vous m'entendrez ou que vous me verrez, ouvrez la fenêtre, Rosie, et dites-moi, avec un de vos petits regards de sourire, dites-moi que vous avez toujours pour moi de l'amitié. Alors, la mère Nesmy fera le voyage comme cela se doit, et vous demandera votre père, et s'il dit oui, je vous jure par mon baptême que je vous emmènerai chez moi pour être ma femme. Je vous ai dans le sang, je n'ai point d'autre idée dans l'esprit, je n'ai pas d'autre bon ami dans le cœur. Portez-vous bien, je vous salue de tout mon cœur, Jean Nesmy. Une à une, comme les grains du chapelet qu'on égrène et qui se mettent d'eux-mêmes sous les doigts, les phrases de la lettre repassaient dans la mémoire de Marie-Rose. et l'image de Jean Nesmi était devant ses yeux, grands ouverts sur la campagne. La jeune fille le revoyait serré dans sa veste à boutons de corne, avec son visage osseux, ses yeux ardents qui riaient pour elle seulement et pour les beaux travaux finis, quand, à la tombée du jour, la faucille pendue à son bras nu, il regardait les javelles qu'il avait abattues et liées dans les chaumes. « Le père ne parle plus contre lui, songeait-elle. Même il l'a défendu une fois contre Mathurin. Moi, il ne m'a pas vu me plaindre, ni refuser le travail, et je crois qu'il me veut du bien de l'avoir servi de mon mieux. Si André s'établissait à présent et amenait une autre femme à la Fromentière, mon père ne refuserait pas, peut-être, de me laisser me marier. Et m'est avis que cet André a des raisons pour s'absenter le dimanche et pour se promener comme il fait à Saint-Jean, au Perrier, à Saint-Gervais. » Elle souriait. Ses yeux avaient pris la couleur de la paille fraîche qui l'enveloppait. J'appris dans Saint-Jean-de-Mont qu'on allait vendre les meubles du château, mon père. Toussaint-Lumineau resta sans comprendre un moment. Oui, tous les meubles, répéta André. Les journaux l'annoncent. Tenez, si vous n'y croyez pas, voici la liste, elle est complète. Il tira de sa poche un journal et désigna du doigt une annonce où le père lut laborieusement. Le dimanche 20 février, à 8 heures du matin, il sera procédé par le ministère de Maître Houlry, notaire à Chaland, à la vente du mobilier du château de la Fromentière. On vendra meubles de salon et de salle à manger, tapisserie ancienne, bahuts, tableaux, lits, tables, vaisselle, cristaux, vin, armes de chasse, garde-robe, bibliothèque, etc. Eh bien, demanda André. Oh, dit le père. Qu'est-ce qui aurait dit cela, voilà 8 ans? Ils sont donc devenus pauvres à Paris? Il resta silencieux, ne voulant pas juger trop durement son maître. C'est la ruine, dit André. Après les meubles, ils vendront la terre et nous avec. Le chef de la Fromentière, successeur de tant de métayers des mêmes maîtres, se trouvait au milieu de la salle. Il leva ses paupières fatiguées, jusqu'à ce que ses yeux reçussent l'image du petit crucifix de cuivre pendu à la tête du lit. Puis il les rabaissa en signe d'acceptation. « Ça sera un grand malheur, dit-il, mais ça n'empêchera pas de travailler. » Il sortit, peut-être pour pleurer.